Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'earnings générée par IA. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous plongeons dans les résultats du premier trimestre 2026 de Mondelez International. L'entreprise de snacking mondial a livré quelques chiffres intéressants, et nous avons pas mal à décortiquer. Avant de commencer, j'ai un message important pour nos auditeurs. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Voilà, c'est dit. Jordan, tu es prêt à creuser dans les chiffres ?
Absolument, Alex. Et honnêtement, Mondelez a livré un trimestre assez solide. On parle de croissance des marchés émergents de 6,3%, ce qui est vraiment respectable dans l'environnement actuel. C'est particulièrement impressionnant vu les défis macroéconomiques qu'on voit partout.
Exactement. Et c'est intéressant parce que les marchés émergents représentent environ 40% du chiffre d'affaires de Mondelez. Dirk Van de Pu, le PDG, a souligné que cette croissance était vraiment généralisée. On parle de croissance à deux chiffres en Inde, croissance en Chine malgré une confiance des consommateurs plus faible, et du solide en Amérique latine. Bien sûr, le Mexique était plat, mais globalement, c'est un beau tableau.
Oui, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est comment ils gèrent les défis. Il y a eu un impact de 350 millions de dollars sur les marges brutes en raison du phasing des stocks essentiellement, des dynamiques d'inventaire temporaire. Mais voici le truc fascinant, même avec cet impact, les marges n'ont baissé que de 270 points de base. Pourquoi ? Parce que leur chaîne d'approvisionnement fonctionne vraiment bien en ce moment.
C'est là qu'on voit la vraie force opérationnelle ressortir. Luca Zaramella, le CFO, a mentionné que leurs équipes de chaîne d'approvisionnement en Amérique latine, en EMEA, et même en Amérique du Nord livrent des avantages année après année. Ils ont réalisé des gains de productivité qui ont essentiellement compensé cet impact d'inventaire. C'est un contraste intéressant avec beaucoup d'autres entreprises alimentaires qui ont vraiment souffert des défis de la chaîne d'approvisionnement.
Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement sur les rayons. En Europe, ils ont essentiellement complété les négociations avec les détaillants juste avant Pâques, excellente synchronisation, d'ailleurs. Et ils ont constaté des gains de parts de marché, particulièrement dans le chocolat. Dirk a noté que le chocolat en Europe était vraiment en train de rebondir.
Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils ont comblé certains écarts de prix dans le cacao en Europe. Deuxièmement, ils ont affiné leur stratégie de promotion aux États-Unis, et cela porte ses fruits. Mais peut-être plus important encore, parlons de Biscoff. C'est devenu une vraie histoire de succès. Dirk a dit que c'était incroyable, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils ont des gains de parts énormes, et en Inde, leur lancement de biscuits Biscoff s'est déjà vendu. Je veux dire, vraiment, c'est impressionnant.
C'est un bon exemple de ce qu'une bonne innovation et un bon positionnement stratégique peuvent faire. Biscoff est clairement devenu plus qu'une simple catégorie de cookies, c'est devenu une plateforme. Ils le mettent en chocolat, en biscuits, c'est partout maintenant. Et les consommateurs l'achètent.
Exactement. Passons à l'Amérique du Nord, où les choses sont un peu plus nuancées. Le PDG a été honnête à ce sujet. La confiance des consommateurs américains est très basse. Le panier d'achat moyen n'a pas augmenté en valeur en 3 ans. Les gens deviennent vraiment sélectifs sur ce qu'ils achètent. Mais, et c'est important, Mondelez voit réellement une amélioration.
Oui, et ils le font d'une manière très stratégique. Ils gagnent des parts dans les canaux à croissance rapide, comme les clubs de stockage Costco, Walmart. Ils gagnent des parts avec Ritz dans les crackers salés. Et ensuite, tu as des brands comme Sour Patch Kids qui, selon Lucas, vont croître à 2 chiffres cette année. Le bar Perfect Bar avec 20 grammes de protéines sort bien. Ou, leur marque de chocolat haut de gamme vegan, croît rapidement aussi.
C'est vraiment l'histoire ici, n'est-ce pas ? Même si la catégorie globale des biscuits est fondamentalement plate, Mondelez gagne des parts grâce à l'innovation produit et à l'exécution, particulièrement dans les segments premium, bien-être et basé sur les protéines. C'est très différent d'attendre que le marché s'améliore.
Complètement. Et concernant les conseils, c'est ce qui est intéressant. Ils ont réaffirmé leur conseil d'EPS pour 2026. Normalement, quand une entreprise arrive mieux que prévu, elle relève les conseils. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ici?
Bonne question. Lucas a été très transparent à ce sujet. D'abord, oui, ils sont devancés par rapport aux attentes. Mais il y a des vents contraires auxquels ils ne s'attendaient pas vraiment, la crise du Moyen-Orient. Et ce n'est pas seulement un problème géopolitique abstrait, c'est devenu un problème commercial réel. Cela augmente leurs coûts de transport, leurs coûts de pétrole. Bien qu'ils soient couverts pour l'année sur le pétrole et les coûts d'emballage, certains marchés réglementés ne leur permettent pas d'utiliser des stratégies de couverture typiques.
Donc essentiellement, ils se protègent volontairement. Si les bénéfices supplémentaires arrivent, ils vont les réinvestir dans l'entreprise plutôt que de les ajouter aux résultats nets. C'est une approche intéressante.
C'est stratégique. Cela signifie deux choses. Premièrement, Mondelez s'attend à ce que sa croissance se poursuive, et ils veulent maintenir le momentum. Deuxièmement, ils ont vraiment confiance en leurs opportunités d'investissement. Lucas a mentionné plusieurs fois une forte croissance des EPS en 2027, ce qui suggère qu'ils voient des opportunités réelles pour 2027 s'ils investissent maintenant.
Et en parlant d'investissement, prenons le programme de chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. C'est un domaine que je trouvais vraiment intéressant. Lucas a décrit essentiellement une modernisation du réseau de biscuits nord-américains. Environ 60% du réseau est déjà à la pointe de la technologie, mais ils vont consolider certaines lignes de cofabrication, investir dans plus d'automatisation, et créer de la flexibilité pour différents formats d'emballage.
Pourquoi cela compte? Parce que les consommateurs changent comment ils achètent. Ils achètent plus en club, plus en ligne. Cela signifie des emballages différents, des tailles différentes. Et le réseau de distribution directe, DSD, de Mondelez, qui atteint la plupart des points de vente deux ou trois fois par semaine? Ils vont l'automatiser et créer des centres d'exécution alimentés par l'IA. C'est un investissement réel pour rester compétitif.
C'est vraiment l'infrastructure d'avenir. Et honnêtement, c'est le type d'investissement patient que les marchés n'aiment pas toujours à court terme, mais qui crée des avantages concurrentiels réels et durables à long terme.
Oui. Donc, pour résumer ce que nous voyons ici, Mondelez livre un trimestre solide, les marchés émergents croissent à double chiffre dans certains domaines, le chocolat européen revient, l'Amérique du Nord améliore les parts de marché malgré un consommateur faible, et il lance des innovations qui fonctionnent réellement. Mais il reste prudent sur les vents contraires macro, particulièrement la crise du Moyen-Orient, et ils choisissent de réinvestir plutôt que de relever les conseils.
Et ce qui en ressort, c'est un management qui pense vraiment à long terme. Ils construisent des plateformes durables Biscoff, le bien-être et les protéines, le chocolat haut de gamme plutôt que juste d'essayer de maximiser les bénéfices à court terme. C'est un peu rafraîchissant honnêtement.
Entièrement d'accord. Avant de conclure, j'aimerais que tu partes avec quelques points clés que les investisseurs devraient surveiller pour le reste de l'année.
Absolument. Premièrement, comment le conflit du Moyen-Orient évolue-t-il? C'est un véritable risque pour les marges. Deuxièmement, l'intensité de la concurrence en Europe sur le cacao. Ils disent que les fondamentaux du cacao sont sains, mais c'est à surveiller. Troisièmement, l'attraction du consommateur américain. Si cela commence vraiment à s'éroder au-delà de ce qu'ils s'attendent, cela pourrait peser. Et quatrièmement, la réussite de leurs initiatives d'innovation. Elles fonctionnent maintenant, mais les consommateurs sont exigeants, et les trends changent. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Excellent point, Jordan. Merci d'avoir creusé dans cela avec moi. Pour nos auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui sur BetaFinch. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à évaluer intelligemment. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir BetaFinch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.